Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Nous sommes une idée. Nous sommes Anonymous.
Non, pardon, j'avais les oreilles qui traînaient dans le couloir.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Et bonsoir à tous, bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui connecte les Français, au moins jusqu'à 21h ce soir. Comment va Guy Birenbaum ?
Ça va bien et toi, Abiker, ça va ?
Parfaitement, ce soir on va se poser ensemble une question simple, une question grave pour notre grande conversation. Ces hommes qu'on appelle les lanceurs d'alerte et qui ont divulgué via internet des secrets d'État, est-ce que c'est des héros ou des traîtres ? Accusé Julian Assange, accusé Bradley Manning, accusé Edward Snowden, levez-vous ce soir des clics et des claques, fait votre procès à distance et par contumace avec un grand jury d'experts. À 20h30, si vous avez passé la journée dans une grotte, Romain de Salles de Time to Sign Off est là avec son info qui claque et qui fait réagir juste après tête à clic avec le ministre bis de l'éducation nationale, je l'appelle comme ça, 100 000 élèves, 25 000 profs et des bons résultats dans son compte d'exploitation. C'est le patron du groupe Acadomia, ancien communicant, un chouïa timide paraît-il. S'il passe l'oral de DCDC, il aura droit au cadeau empoisonné d'Agnès L'Église.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Bonsoir Philippe Colléon.
Bonsoir.
Patron d'Acadomia. C'est la rentrée pour vous ?
Bientôt, oui. Enfin, ça fait quelques semaines qu'on se prépare à cette future rentrée la semaine prochaine.
Vous avez mis quoi dans votre cartable, vous ?
Oh ben, devoir de vacances aussi, comme nos élèves. On a aussi le droit de un petit peu de vacances. Bon. Puis on a bonne mine, on est.
Vous êtes un peu stressé avant la rentrée, vous, ou pas ?
Ah, toujours.
Toujours. Hein.
Toujours, parce qu'il y a quand même 100 000 élèves qui nous attendent à organiser, trouver des enseignants, mettre tout ça en place. Donc c'est un petit peu comme la rentrée des profs, on a notre rentrée aussi scolaire à nous.
Alors je vais pas vous demander de tailler votre crayon, mais de bien ajuster votre micro en fait, voilà. Parlez voilà, bien dedans, parlez face à face avec, voilà. Avec le micro et avec Guy et moi. On va vous demander, c'est la tradition, vous savez, votre mot-clé de l'actu, un peu comme si vous tapiez un mot-clé dans Google. Votre mot-clé de l'actu aujourd'hui, c'est quoi ?
Je parlerai de confiance. Peut-être de manque de confiance.
Ah oui.
Quand j'entends les déclarations aussi bien du Premier ministre sur les, j'entendais tout à l'heure sur les déclarations sur les retraites. Quand j'entends les chefs d'entreprise sur l'avenir, je crois qu'il y a un vrai manque et problème de confiance aujourd'hui. Et surtout quand on voyage,
vous trouvez que les politiques n'ont pas confiance en eux ou vous n'avez pas confiance en eux ?
Non, je pense qu'il y a une cause à tout ça et que cette cause vient de l'enfance. Ah. Et que justement ce manque de confiance, on le ressent nous chez nos élèves, chez les parents, et justement la genèse de tout ça vient de l'enfance où justement l'élève français se sent nul et jugé comme un mauvais élève à travers les études PISA ou autres, mais c'est ce manque de confiance, c'est peut-être notre premier travail qui est de dire ces élèves sont pas plus nuls que d'autres et redonner aussi confiance aux parents en leurs enfants.
Alors on va en reparler tout à l'heure. Oui. Philippe Colléon, vous êtes le patron d'Acadomia, vous avez mille choses à dire sur la façon dont on enseigne aujourd'hui et dont on donnera confiance à nos élèves demain et en cette rentrée. Mais j'ai une question particulière. Est-ce qu'un de vos collaborateurs vous a déjà trahi ? C'est arrivé ou pas ?
Non.
Mais vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui, on va parler des lanceurs d'alerte. Ces gens qui disent leur vérité, qui mettent leur employeur ou un État ou une administration en danger. Et on va se poser la question de savoir si c'est des héros ou des traîtres avec Guy Birenbaum et nos amis.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Les lanceurs d'alerte, les Bradley Manning, les Julian Assange, les Edward Snowden, sont-ils des traîtres ou des héros pour avoir divulgué des secrets sur Internet ? C'est le sujet de notre grande conversation ce soir. On est avec Alexandre Adler, on est avec Jean-Marc Manac qui nous a rejoint et qui est au téléphone. Et puis Nicolas Arpagian qui est à mes côtés, enseignant à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité. Je vous repose la question, est-ce qu'on a affaire à des traîtres ou à des héros, sachant que déjà sur Twitter, où les auditeurs nous écoutent et font des remarques, disent « mais on peut pas prendre le problème comme ça, on peut pas dire que c'est des traîtres ou des héros, c'est bien plus compliqué ». Je vous pose quand même la question.
Ce qui est certain, c'est que c'est l'histoire qui jugera. Et je pense que ce statut de traître ou de héros sera déterminé sur la durée. Si on prend un exemple, Jean Moulin, traître pour les uns, à une époque, il est évident qu'à l'échelle de l'histoire, c'est un héros. Donc on va avoir cette interprétation sur l'instant, mais c'est surtout sur la durée qu'il faut le concevoir. Parce que la question, c'est effectivement la légitimité de la dénonciation et la réalité. En l'espèce, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir des traîtres pour des mauvaises raisons. Les mœurs, l'argent, éventuellement, pourquoi pas, l'idéologie, mais on était sur des raisons qui étaient effectivement forcément complexes. Là, on est dans quelqu'un qui non seulement dénonce, mais dénonce rapidement. C'est-à-dire que leur identité a été révélée rapidement, donc on n'est pas dans la dénonciation secrète, mais on est bien dans la prise de risque personnel. Donc rien que pour cela aussi, ça appelle à considération, puisque dans le cas des époux Rosenberg, d'accord, mais c'est l'enquête, c'est les investigations. Là, en l'occurrence, ce sont des gens qui eux-mêmes sortent du bois et prennent ce risque personnel.
J'entends ce que vous dites, Nicolas Arpagéan, sur l'histoire, l'inscription dans la durée, sauf que l'époque a complètement changé. Quand vous nous parlez de Jean Moulin, il n'y avait évidemment pas Internet. Là, tout va tellement vite que le jugement...
Pour la qualification.
Oui, mais même sur la qualification.
Même les Allemands ne pensaient pas que Jean Moulin fut un traître.
Tout à fait.
Ils pensaient qu'il fallait l'abattre, c'est autre chose.
Ce
que je veux vous dire, c'est que le temps n'est pas le même, même sur le jugement. On va pas attendre 30 ans.
Non, mais la question de la mise, le fait de le passer devant un tribunal, c'est évident. Pourquoi ? Parce que ce serait mettre en difficulté l'ensemble de l'organisation. Ça voudrait dire que l'engagement de confidentialité qui lie les autres membres de l'administration serait gommé, serait balayé. Donc, évidemment. Et d'ailleurs, cette sanction à 35 ans est à la fois...
Là, on parle de Manning.
De Manning est à la fois très lourde, parce que pour un homme, 35 ans, mais à la fois par rapport à des appels à la peine de mort tels qu'ils avaient pu être envisagés par des parlementaires américains, on est aussi dans une, et je mets d'énormes guillemets, une sanction relativement limitée. Donc c'est vrai que sent mal à l'aise... Non, mais c'est pour ça d'énormes guillemets, mais on sent en tout cas les juristes mal à l'aise.
Jean-Marc Manac, qui était en pointe déjà il y a 3 ans quand l'affaire Wikileaks est sortie, vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier. Qu'est-ce que vous pensez de cette question qui consiste à dire, on a envie de se faire une opinion sur ces gens-là. Est-ce que c'est une nouvelle espèce de héros? Est-ce qu'il faut les traiter comme des traîtres à l'État qui les employait pour certains d'entre eux? Qu'en pensez-vous? Parce que la nouvelle génération, la NetGen, et c'est pas uniquement les pirates, pas les Anonymous, elle a fait de ces gars-là des héros.
C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas des traîtres au sens où ils ont pas vendu... ou donner des secrets à un autre service de renseignement. Ils ont rendu public au monde entier qu'ils estimaient être des dysfonctionnements parce que leur objectif, c'était de faire des États-Unis quelque chose de meilleur. Là, je parle de Manning et je parle de Snowden. C'était pour que le monde soit meilleur. Donc c'est en ce sens-là que c'est des héros pour la génération Internet, parce que les gens qui ont grandi avec Internet et ceux qui défendent les libertés sur Internet sont des partisans de la transparence. Et sont également des gens qui connaissent ce que c'est que le bottom-up, c'est-à-dire le fait, l'empowerment, le fait que c'est pas forcément les chefs qui décident. Et moi, l'analyse que je fais de la situation, sur Internet en règle générale, mais notamment sur ces lanceurs d'alerte, c'est que c'est un petit peu comme la révolution sexuelle. C'est-à-dire à un moment, des jeunes qui décident, c'est pas mon père qui va décider à ma place si j'ai le droit de sortir le soir, c'est pas mon père qui va décider à ma place si je vais faire la guerre.
Et vous parlez de révolution sexuelle, mais il y en a un des trois qui veut changer de sexe et qui veut devenir une femme. Il y en a un qui veut devenir Chelsea alors que c'est un homme. Ce détail-là, il concerne sa vie privée, mais...
On parle de Bradley Manning, encore
une fois. Bradley Manning, comment vous expliquez que Bradley veuille devenir Chelsea juste après qu'il ait été lanceur d'alerte et qu'il ait été dans l'œil du cyclone?
En fait, c'est parce qu'il avait des troubles d'identité sexuelle qu'il s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'il est rentré en contact avec un hacker aux États-Unis qu'il soupçonnait d'être lui aussi homosexuel ou habité par les questions de genre. Et c'est lui, il lui a révélé que c'était lui l'informateur de WikiLeaks, et le hacker en question, Brian Lamow, l'a dénoncé.
Bon, c'est une question annexe qui rentre pas complètement en ligne de compte.
Si.
Alexandre Adler, vous dites que c'est important.
Mais on voit bien que cet homme qui s'est engagé dans l'armée, sans doute avec des idéaux élevés, à un moment donné n'a plus supporté la discipline militaire, n'a plus supporté la hiérarchie militaire, et que si on voit qu'il avait par ailleurs des problèmes psychologiques de nature à vouloir changer de sexe, on comprend que la révolte contre l'institution ait été particulièrement violente et qu'il soit passé à un acte particulièrement irréparable.
Et sur la question...
Vous savez que Kissinger, qui lui voulait éviter un procès pour Daniel Ellsberg, a quand même fait cambrioler le bureau de son psychanalyste en espérant trouver un dossier pour l'accuser de folie. Mais c'est vrai que les gens qui font cela, ça ne veut pas dire que ce soit des fous, qu'il faille les mettre comme en Union soviétique dans les asiles, mais ce sont des gens qui éprouvent un conflit violent avec l'autorité.
Mais sur la question de la légitimité, Jean-Marc Manac disait finalement, ils se sentent légitimes pour dire leur vérité au monde et faire basculer.
Alors, vous permettez
la
que je distingue les choses. Oui. Assange, lui, c'est un civil. Il n'a jamais signé quoi que ce soit. C'est un Australien.
Il est totalement libre.
Il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Donc, d'un certain point de vue, c'est le plus innocent des trois. Et en même temps, c'est certainement lui qui a commis le plus de dommages. Et
En respectant le premier amendement sur la liberté d'expression. Donc, à la limite, il est comme un directeur de journal ou comme un média qui ne fait qu'amplifier une information
apportée par d'autres. Pour considérer que rentrer dans des systèmes informatiques n'est pas absolument couvert par le premier amendement de manière évidente.
Mais ça voudrait dire qu'il faudrait poursuivre les directeurs de journaux qui ont, à leur manière, repris les versions de Wikileaks, le Télégraphe, enfin
n'importe quel avocat d'un journal pourra dire que la liberté de concurrence est telle qu'aucun journal ne pouvait faire de la rétention, étant donné qu'il y en aurait au moins un qui la ferait.
Alors, je voudrais
maintenant
rappeler
les deux autres, c'est autre chose. Ce sont des officiers quasiment ou des sous-officiers qui, à un moment donné, décident que des normes qui sont plus élevées à leurs yeux que celles que la discipline militaire impliquerait.
On leur a mis conscience.
Les amène, on leur a mis conscience.
Mais Alexandre,
moins de mal.
On prend juste un exemple.
Mais ils ont plus à se justifier.
Alexandre, Bradley Manning, je parle sous le contrôle de Jean-Marc Manac. Dans un des documents qui sort, c'est une vidéo absolument extraordinaire, prise à l'intérieur d'un hélicoptère américain, dans laquelle on voit des civils et des journalistes se faire massacrer. C'est exact, Jean-Marc, je ne me trompe pas. Bon, ça quand même. Je veux bien qu'il y ait la hiérarchie, le respect de la hiérarchie à laquelle on appartient, mais enfin, c'est un crime de guerre contre des civils.
Écoutez, je suis vraiment gêné parce que je ne connaissais pas cette image. Ça se passe en Afghanistan.
C'est l'image
c'est
la plus spectaculaire.
C'est des prisonniers qui sont abattus sommairement en Afghanistan.
Jean-Marc, est-ce que vous pouvez rappeler à Alexandre le contexte de cette vidéo?
C'est la vidéo qui a fait connaître Wikileaks au monde entier, que Wikileaks avait appelé Collateral Murder, et où on voit en fait des soldats américains qui prennent des gens pour des rebelles parce qu'ils ont confondu deux photographes qui étaient sur place avec des lance-roquettes. Et donc plutôt que de vérifier s'il s'agissait bien de lance-roquettes, ils ont décidé de tirer et ils ont tué une dizaine de personnes, dont des enfants.
Tout commence comme ça.
Et les autorités américaines n'ont jamais reconnu la réalité de ce meurtre. Ils ont fait entrave à l'enquête. Et donc, au bout d'un moment, Manning a sorti cette information à Wikileaks, qu'il a exploité. Et donc, on avait la preuve que les autorités américaines avaient menti et avaient refusé d'enquêter sur ce dommage collatéral.
Jean-Marc Manac, avant qu'on se sépare, je voudrais demander à Nicolas Arpagian, est-ce que vous pensez que ces questions qui ne concernent pour l'instant que des États peuvent concerner demain des institutions, des grandes banques, des administrations?
Certainement, parce que dès lors qu'il y a un intérêt à agir, alors ça peut être pour des motifs idéologiques, ça peut être, on a vu dans le cas de ce banquier qui avait récupéré les fichiers de HSBC et qui après essayait de les monnayer ou en tout cas de négocier avec ces fichiers. L'information a une valeur, il est évident que pour les entreprises, l'information est un élément différenciateur, c'est-à-dire que votre secret de fabrication, les comportements, les stratégies marketing, ce que vous essayez de faire pour vous distinguer par rapport à vos concurrents, ça a une valeur. Quelquefois, et on l'a vu, des recettes de fabrication, des modes opératoires qui peuvent être contestables, des vidéos qui montrent vos ateliers et qui veulent dénoncer des situations. C'est vrai que dès lors qu'il y a une information, il y a un pouvoir. Et donc, ceux qui vivent de ce pouvoir peuvent effectivement subir cette publication à leur détriment.
Jean-Marc Manac, vous condamnez ou vous libérez ces trois fugitifs ?
C'est hallucinant pour moi de savoir que Julian Assange est enfermé depuis plus d'un an.
Donc vous libérez. C'est très bien, on a compris votre position. Alexandre Adler, vous condamnez ou vous condamnez pas?
Alors les deux militaires, enfin le militaire et l'agent de la NSA,
non.
Et Assange, non. C'est d'ailleurs un coup monté où les services suédois se sont mis de la partie sur une histoire
de mœurs.
Qui n'est même pas un viol. C'est bon. Et alors, bien entendu, mais en même temps, il faut aussi dire que qui vit par l'épée peut avoir des problèmes. C'est-à-dire, je comprends bien qu'Assange, on lui fasse des problèmes.
Bien.
Et si j'étais au pouvoir, je lui ferais des problèmes.
Très bien, vous l'avez dit.
Ce n'est pas une condamnation. Il ne peut pas être condamné.
Okay. Évidemment. Évidemment, c'est un procès au sens figuré et non propre du terme. Merci à tous les trois, Alexandre Adler, qu'on retrouve chaque soir sur Europe 1, dans Europe 1 Soir, Jean-Marc Manac, journaliste, Nicolas Arpagian. Je rappelle que vous avez publié un Que sais-je sur la cybersécurité. Dans un instant, si vous avez passé la journée sous une cloche, l'info qui claque avec Romain De Salles.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Guy Birenbaum, David Abiker.
C'est l'heure de l'info qui claque. Salut Romain De Salles de la newsletter Time to Sign Off. Comment ça va?
Salut David, ça va fort bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir dans Time to Sign Off, si on n'a rien cherché de la journée, rien écouté?
Eh bien, ce soir, l'info qui claque, c'est que vous, Guy, et toute l'équipe de Déclic et des Claques, vous êtes des irresponsables.
Ah ouais, alors vous allez...
Vas-y, allez.
Il faut nous le prouver, là.
Eh bien, en faisant chaque soir la promotion de l'usage du numérique, vous êtes écologiquement irresponsables.
Tiens.
Time Magazine reprend les calculs d'un spécialiste américain de la consommation énergétique. Il a comparé un iPhone avec un réfrigérateur. Alors, tenez-vous bien, en un an, un iPhone consomme 360 kWh, ce qui est plus que ce qu'il faut à un réfrigérateur de taille moyenne, qui consomme environ 320 kWh. C'est bien simple. Selon le Time, le numérique, nos téléphones, nos tablettes, mais surtout les serveurs où sont conservées toutes les données du réseau, consomment 10% de l'électricité mondiale. C'est l'équivalent de la production électrique combinée du Japon et de l'Allemagne. Et c'est 50% d'énergie en plus qu'il n'en faut à l'ensemble du trafic aérien mondial. Je crois qu'au rang des promesses que le numérique n'aura pas tenues, on peut clairement inscrire celle d'un monde plus économe.
Mais il va falloir prendre des bonnes résolutions. Mais là, vous êtes un vrai lanceur d'alerte, Romain de Salles.
Oui,
on vous félicite ou on vous mettra en prison.
Raccroche-lui au nez plutôt.
Allez, il court toujours. On le retrouve demain dans l'info qui claque. Merci pour cette information. Tout de suite, c'est le grand déballage avec notre tête à clic. Philippe Colléon, c'est le patron d'Acadomia et il fait sa rentrée sur Europe 1. Super.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Philippe Colléon, alors vous connaissez le principe du grand déballage. Vous êtes tête à clic, un tout petit peu tête à claque, mais pas trop. Hein. Et notre habitude ici, c'est un peu de chercher votre empreinte numérique. Et Guy va vous expliquer ce que c'est.
L'empreinte numérique, on tape votre nom ou celui d'Acadomia. Alors, c'est un peu décevant, c'est pas très profond. Il y a effectivement, quand on tape votre nom, on trouve recrutement et Acadomia qui sortent dans les moteurs de recherche. Mais si Acadomia, tout le monde connaît, c'est pas vous faire insulte que vous dire on vous connaît moins. Alors dans les portraits qui vous sont consacrés, parce qu'il y a des portraits notamment sur Rue 89 par exemple, sur le site Rue 89, j'ai pris cet extrait qui m'a beaucoup amusé. Je lis, quand il répond aux questions, Philippe Colléon ne se trouve pas bon, se demande s'il a été clair et si on voit ce qu'il veut dire. Mais dès qu'il s'agit de commenter la déco du bureau, de parler hors micro, le directeur associé d'Acadomia se met à plaisanter, raconter des anecdotes, respire un peu. Ça va aller là.
Très bien, on va essayer. Bon, vous mettez à l'aise.
Mais c'est vrai?
Il y a forcément une habitude, des journalistes, une méfiance.
Vous vous méfiez de nous?
Non,
méfiance,
pas de nous.
Des médias. C'est normal.
Mais c'est vrai les médias sont à gauche et ils ont horreur qu'on fasse de l'enseignement
Quelle
payé.
Quelle caricature.
Non,
mais c'est vrai.
Non, c'est la durée de l'information.
Mais non, mais tous les journalistes, 80%, et même ils le nient pas, ils ont plutôt des convictions de gauche. Et l'enseignement privé payant et en soutien scolaire a très mauvaise réputation.
Ah, là-dessus, on est d'accord.
Ah, vous êtes d'accord.
Là, je
vous ai mis à l'aise, là.
Ah, là, complètement.
Alors là, vous êtes tranquille.
Ah, voilà. Il est à l'aise.
Il est très à l'aise.
Alors, vous êtes un ancien communicant, d'EuroRSCG. Mm-hmm. Vous êtes parti chez un petit client qui trouvait que vous étiez un bon consultant. Il vous a embauché, puis petit à petit, vous avez pris le contrôle de la société. Je fais rapidement. Vous avez créé avec Acadomia le premier business de soutien scolaire. Monter des boîtes, quand même, ça reste votre addiction. C'est-à-dire que finalement, si ça n'avait pas été le soutien scolaire et Acadomia, ça aurait pu être reprendre le Club Med, créer une start-up informatique ou Internet, non?
Non, je pense qu'il faut une affinité avec ce qu'on crée. Je pense qu'à un moment, c'est beaucoup d'investissement personnel, faut apporter de la valeur ajoutée, de l'intelligence. Je pense que là où on peut apporter le plus d'intelligence, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on connaît un petit peu. J'ai envie de dire pourquoi l'affinité par rapport. Puis d'ailleurs, je suis pas enseignant. Moi, j'ai jamais enseigné. Quelle est ma légitimité dans l'académie? C'est justement peut-être parce que je suis pas enseignant, peut-être simplement parce que j'étais élève, peut-être simplement parce que
vous étiez un bon élève.
J'étais un très mauvais élève, enfin, très malheureux.
C'est pour ça.
Très malheureux.
Tout vient de là.
Très malheureux, bien sûr, on peut remonter
pourquoi
à ça.
Pourquoi malheureux?
Malheureux parce que, justement, besoin de communiquer, besoin de s'exprimer, besoin de prendre la parole. Est-ce que vous savez, si on prend l'anglais, combien de temps un élève sur l'ensemble de sa scolarité va parler anglais?
Dites-nous.
2h20.
D'où ça vient?
2h20.
D'où vous nous sortez
c'est
ce chiffre?
C'est des études, je n'ai pas la source là. Donc, il y a un besoin de s'exprimer. J'avais besoin de m'exprimer.
Vous avez aussi
l'école
monté...
ne donne pas ça.
Vous avez aussi monté une boîte qui s'appelle Shiva, sur la commande par Internet de ménage. On peut appeler par téléphone,
Internet.
Et avoir du service à la personne, des ménages. Mais là, ce n'est pas parce que votre chambre n'était pas rangée quand vous étiez petit que vous avez créé cette boîte.
Alors, je vais vous faire un aveu. C'était pour occuper ma belle-mère.
Non, alors,
exactement.
Non, vous plaisantez.
Exactement. J'avais ma belle-mère qui arrivait en retraite, qui avait des compétences, qui avait travaillé dans l'hôtellerie, dans le groupe Accor. Et je lui dis, attends, au mois de juillet, je vais te créer une boîte.
Ah, voilà. D'accord, c'était pas pour faire des ménages.
C'est pas pour faire des ménages à ma belle-mère.
Ah bon, d'accord.
Non, rassurez-vous.
Alors, c'est évidemment, c'est pas un énorme scoop, c'est la rentrée des classes dans quelques jours. Alors, on lit beaucoup dans les médias spécialisés qu'Acadomia fait le plein. C'est assez étonnant, en pleine crise, est-ce que c'est le stress des parents qui s'aggrave, le niveau qui baisse? De quoi ça vient, ce remplissage et ces gens qui affluent vers vous?
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le rapport entre l'argent et l'éducation est en train de changer en France. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les familles sont prêtes à payer pour leurs enfants.
Dans
pour
la l'éducation. Crise, malgré les difficultés
crise,
financières
donc,
de tout le monde.
Dans les priorités de budget. Alors peut-être effectivement c'est sa propre angoisse de son propre futur, du chômage, etc. qui fait qu'on veut donner à ses enfants peut-être ce qu'on n'a pas soi-même. Donc c'est ces craintes personnelles qu'on reporte sur ses enfants, premièrement. Deuxièmement, il faut modérer. Effectivement, on va suivre à peu près 10 000 enfants en stage cette semaine. Ça reste archi marginal sur les 12 millions d'écoliers qui vont rentrer lundi. Donc on reste... vous avez eu la provocation, si je puis dire, tout à l'heure parler. Mais ça reste, on reste dans des quantités, même si on suit 100 000 élèves par an sur 12 millions.
C'est pas mal.
Ça fait une toute petite part de marché. Ouais. D'accord? Donc c'est simplement pouvoir aider certains enfants à un moment donné de leur scolarité parce que justement ils ont un besoin ou bien parce que le passage a été fait de justesse. Et il faut pas oublier également que de plus en plus d'établissements scolaires demandent aux enfants, donc aux parents, de fournir un travail pendant l'été. D'accord. Donc simplement ces stages, ce travail pendant l'été et souvent une réponse aussi aux établissements scolaires.
Alors, quand on cite le nom d'Acadomia sur les réseaux sociaux et qu'on dit qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez été prof chez Acadomia, on a beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Par exemple, on a Garance qui sur Twitter se demande si les enfants qui fréquentent les cours de soutien scolaire Acadomia veulent être premiers de la classe ou s'ils ne veulent pas être derniers de la classe. Quel est le profil de ces enfants?
Alors, il y a plusieurs profils. D'abord, les excellents élèves, il y en a peu, par définition. Ce sont des enfants qui, à un moment de leur scolarité, dans une matière ou plusieurs matières, sont en difficulté. Difficulté, c'est-à-dire que c'est pas des enfants qui ont totalement décroché, c'est des enfants qu'on va dire entre 8 et 10. Bon. Et notre travail, c'est justement de remettre ces enfants pendant un an ou deux sur les bonnes rails. C'est ça notre métier. C'est pas être tuteur au sens permanent d'un élève. On n'a pas besoin d'Acadomia tout au long de sa scolarité. Donc, c'est à des moments de sa scolarité, parce qu'il y a un examen en fin d'année, parce qu'il y a eu un passage de classe difficile, eh bien, à un moment, on va avoir besoin de quelqu'un pour aider. Voilà. Donc, en tant que parent, où on n'est pas forcément tous enseignants, on n'est pas tous capables d'aider son gamin en première, en terminale, mais on va faire appel à des sociétés comme les nôtres.
Alors quand on cite le nom d'Acadomia, il y a aussi sur les réseaux sociaux des réactions qui sont forcément négatives. J'ai par exemple Anne-Sophie de Monchy sur Twitter qui dit « J'ai été prof Acadomia ». On n'a pas enquêté pour savoir si c'était exact ou pas. Le recrutement, quelle rigolade, que tu te trompes dans le fameux test super rapide ou non, c'est pareil, tu es embauché. C'est vrai, c'est faux, ça peut arriver, c'est des accidents.
On est dans l'humain, on a 23 000 enseignants.
Ouais.
Donc effectivement, l'accident, par définition, on n'est pas dans l'industrie, est possible. Maintenant, tous nos process de recrutement, effectivement, on retient à peu près, si on prend une statistique, un enseignant sur quatre. Voilà, sur quatre enseignants qui postulent, il y en a un qui va travailler finalement.
Alors
pour
elle dit
Acadomia.
Aussi que quand ça marche bien avec un élève, on peut le garder pour des mois, voire deux ou trois ans.
Bien sûr, bien sûr. Oui, qu'est-ce qui vous choque là-dedans?
Non, ça me choque pas, je vous donne la suite de son propos. Donc
non, mais les gens ne supportent pas qu'on fasse du fric sur l'enseignement. Il y a une partie
de
l'opinion
qui vont dans ce sens. Ce qui
n'est pas mon cas.
Juste, mais comprendre qu'est-ce qu'on appelle faire du fric. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un paradoxe en France où on dit l'école est gratuite. Elle n'est pas gratuite, elle coûte 60 milliards. C'est le premier budget où, après la dette de l'État. Donc l'école est payante, c'est un coût. Maintenant, à un moment, je vais vous dire, ce qui coûte cher, c'est pas le cours particulier. C'est l'échec scolaire. Combien coûte l'échec scolaire? Combien, en moyenne, et on fait tous les ans des enquêtes justement de progrès de nos élèves par des instituts extérieurs.
Et vous savez que les gens ne veulent pas payer, ils veulent pas d'échec scolaire, ils veulent que tout le monde réussisse et qu'on soit tous égaux.
C'est un choix.
Vous savez.
C'est un choix.
Hein, c'est comme ça.
Et vous croyez que ça fonctionne? Quand on regarde le classement de la France, on n'est pas si bon.
Allez, on a d'autres tweets qui nous sont arrivés, notamment Christian qui nous dit finalement c'est une mise en relation par Acadomia des élèves et des profs qui ont des heures sup à faire ou qui veulent gagner des sous. Et finalement, il y a un risque. Il y a un risque que le prof se dise, tiens, je vais me mettre au noir et qu'il vous quitte.
Bien sûr.
On a beaucoup de témoignages dans ce sens.
Il y a des gens. Mais enfin, j'espère qu'il vous reste des profs quand même.
Il en reste, rassurez-vous. Mais 80% de ce marché est au noir, non déclaré. Donc effectivement, on va vis-à-vis des entreprises avoir une exigence de recrutement, etc. Mais le vrai, le gros du marché, c'est un marché de 2,2 milliards dépensés chaque année en cours particulier. Alors on pointe à Cadomia, on fait
parlez bien dans le micro, parlez
on fait
bien
à peu près 120 millions, ce qui est effectivement important pour l'entreprise de service, mais ce n'est que 10% du marché, même pas 5% du marché. Donc effectivement, comment garde-t-on nos clients, comment on se développe? Simplement, justement, en sortant de cette intermédiation. Notre métier n'est pas de trouver un enseignant, mais justement de proposer une pédagogie, des supports pédagogiques à nos enseignants, des méthodes que l'étudiant ou que le prof en direct n'aura pas.
Un mot, c'est quoi un bon prof, en un mot? Vous devez savoir, vous devez répondre dans la demi-secondes.
Deux mots, c'est pédagogue, il doit être pédagogue et adapté à l'enfant. C'est-à-dire que vous avez des profs qui sont pédagogues ou pas pédagogues du tout, donc c'est le premier critère. Uh-huh. Et deuxièmement, en fonction du profil de l'enfant, il faut trouver le bon pédagogue. Si vous avez un enfant introverti, ça ne sera pas le même enseignant que si vous avez un enfant extraverti.
Et vous savez les repérer.
C'est ça notre métier.
Guy, alors vous connaissez Internet. Internet n'oublie rien, il n'oublie jamais rien. Alors il y a des bons points pour Academia, puis il y a les mauvais points.
On fera les deux. Hein.
On fera les deux.
On fera les deux.
Pour être objectif. D'abord, il y a cette affaire de fichage des profs établie illégalement. C'était en 2010, selon un rapport confidentiel de la CNIL. Vous fichiez à l'époque votre personnel et vos clients. Rassurez-nous, tout ça, c'est fini, terminé, oublié.
Alors, tout dépend de ce par fichier. C'est extraordinaire. On a une base de données. Oui, on connaît nos
clients. La base de données, il y avait des remarques assez privées, relativement désagréables parfois, sur des enseignants, par exemple, des maladies, par exemple, mauvaise odeur, des choses comme ça. C'était très précis.
Alors, on parle, on va en revenir encore sur ça.
Très vite. Mais Internet, ça garde tout. Donc, on est là pour balayer les choses.
Donc, effectivement, par rapport à cette affaire CNIL, en 15 jours, tout a été normalisé. Vis-à-vis de la CNIL. Donc on a été recontrôlé, c'est fini.
C'était une méthode globale ou un incident ponctuel dans un service ou un des centres Academia?
Quand la CNIL arrive, ils saisissent vos ordinateurs, il y avait 95 millions de champs, de conversations. Ah, 95 millions.
C'est au milieu de tout ça.
Donc au milieu de tout ça, effectivement, il y a une dizaine de propos qu'on a d'ailleurs regrettés, qui sont pas acceptables. Après, il y a d'autres questions qui se posent sur, par exemple, peut-on... un enseignant qui a un casier judiciaire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'information ou pas? On sait que cet enseignant a un passif. On le sait. D'accord? C'est votre enfant, je vous l'envoie.
Eh oui.
D'accord?
On est d'accord.
C'est toutes ces questions après. Voilà.
Guy Berenbaum, David Abiker.
Des clics et des claques sur Europe 1.
On est en plein grand déballage, grande conversation avec notre tétaclic qui est le patron d'Academia, je l'ai appelé tout à l'heure, le ministre bis de l'éducation nationale.
Par provocation.
100 000 élèves, 25 000 profs, je sais que ça va faire hérisser les cheveux de certains de nos auditeurs et les siens aussi parce qu'il est beaucoup plus modeste que ça. Alors on parlait des mauvais points tout à l'heure, mais il y a aussi des bons points, c'est-à-dire que les cours de soutien, on a vu sur internet, il y a plein d'articles sur Academia en ce moment, où les parents, ils reviennent de vacances, il y a une semaine de battement, on va remettre les élèves à jour et on va les faire bûcher, vous confirmez?
Tout à fait, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande pendant cette période de pré-entrée.
Demande des parents, demande des parents. Éventuellement des enfants un peu moins. Est-ce qu'il y a une demande des profs du public ou du privé qui voudraient arrondir leur fin de mois chez vous?
Il y a une demande bien sûr de ces enseignants-là, il y a des profs vacataires, il y a des profs à la retraite.
Il
y a des futurs profs,
est-ce que vous vous dites l'éducation nationale, ils sont tellement mal payés qu'heureusement qu'on est là parce qu'on leur permet d'acheter les clopes?
Bah, je préfère qu'ils travaillent pour Academia que de façon non déclarée au noir. Donc il faut mieux qu'ils rentrent dans un système légal que créer un système parallèle.
Et mon petit doigt me dit, toujours dans les mauvais points, je suis désolé, je suis très désagréable, vous auriez incité des enseignants à prendre le statut d'auto-entrepreneur justement pour être payés et que l'URSSAF n'aurait pas aimé. J'ai vu ça.
Alors c'est dans 5% des cas, dans le cas de cours collectifs, où effectivement l'enseignant pouvait se mettre en auto-entrepreneur. L'URSSAF a estimé que c'était pas réglementaire et voilà, c'est tout le...
J'ai une question, comment le web s'est invité dans ces cours? Tous ces profs qui viennent, ils ont les mêmes problèmes que les autres profs. Les mômes ont des ordinateurs, il y a des écrans partout, etc. Comment le web a été pris en compte dans vos méthodes pédagogiques à vous?
Alors déjà pour nous le web c'est du contenu pédagogique, c'est-à-dire que ça remplace un petit peu un ouvrage, donc c'est vu comme contenu pédagogique et puis ça soulève toutes les questions de l'école de demain, même au niveau de l'éducation nationale. Donc c'est aujourd'hui pour nous plus un support différent qu'un concurrent ou une alternative.
Alors il y a un bon point aussi qu'on voulait vous distribuer, c'est qu'il paraît que vous proposez des cours de soutien scolaire aux enfants dont les mamans sont malades.
Oui.
Alors c'est une action de charité ou d'entreprise responsable. Comment qualifier ça et pourquoi vous le faites?
Mais on fait beaucoup d'actions pour aider des enfants défavorisés, pour aider effectivement des enfants dont les parents sont dans une situation difficile. Donc ce n'est pas un axe de communication, donc je n'en parlerai pas.
D'accord.
Je n'ai pas envie de, justement, c'est pas un acte de communication.
Ben nous, on va le dire, vous le faites avec Rose. Voilà, oui. Rose, le magazine, qui s'adresse aux femmes qui ont eu, qui vont avoir, j'espère que non, ou qui sont en plein cancer. Oui. Ben vous faites ça avec Rose et il faut le dire parce que c'est pas mal. Alors, on parlait tout à l'heure de Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. On disait que vous étiez son ombre, comme ça. On avait cinq questions avec oui. Guy à vous poser.
Plutôt cinq conseils.
Voilà, cinq Vincent conseils Peillon. Que vous donneriez à un ministre de l'Éducation nationale, mais Vincent Peillon ou un autre. Mmh. Allez, Guy, tu commences.
Oui. Les notes, on les garde ou on les jette?
On les change. On met plutôt des lettres que des... Ce fameux 10 de moyenne est horrible.
Vous préférez le ABC, oui. D'accord. Les punitions, genre ligne à copier, on garde ou on jette?
On peut le garder.
Uniforme à l'école, on prend ou pas?
Normalisation du vêtement, oui. C'est une forme de...
Bah, uniforme, quoi.
Uniforme, oui.
Tout sans bleu, tout sans blanc.
Ouais, on peut, ouais,
bon, d'accord. Le téléphone à l'école, autorisé ou interdit?
Autorisé, même pendant les cours. Je pense qu'il faut un moment.
Ah, carrément.
Ben oui, comme dans certains pays, aujourd'hui, on peut utiliser voilà, ces outils.
Ah, oui. Ah, même pendant les cours.
Bon, voilà, d'accord. Exactement. Comme,
Du soutien scolaire à Cadomia dans les établissements publics, vous prenez ou pas?
Le scandale.
Ben, oui, nous on prend, oui.
Bon, je suis pas sûr que le business prenne.
Pas.
Oui, c'est ça.
Une leçon que votre propre business de l'enseignement vous a enseigné à vous, une leçon pédagogique. Qu'est-ce que vous en tirez de tout ça sur la transmission?
Que d'abord, le métier d'enseignant est une vraie vocation, que c'est quand même des types, des gens formidables, et qu'à un moment, il va falloir tout réformer.
Ah bon?
C'est-à-dire qu'à un moment, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans d'autres pays, comment ça bouge, l'évolution justement des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes d'apprentissage, je crois qu'on attention au mythe qu'on a un modèle éducatif français.
Vous pensez qu'on se berce beaucoup d'illusions?
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous êtes plus au front et en sensibilité avec les problèmes qu'un inspecteur d'académie? Est-ce que vous pensez que vous avez aussi une vision des problèmes scolaires et d'échecs scolaires aussi fine que n'importe quel fonctionnaire de l'éducation nationale?
Différente. C'est-à-dire que nous, on est en contact avec 100 000 familles. On voit ce que ne voit pas. C'est-à-dire que nous, on voit l'enfant, la famille, en dehors du cadre scolaire. Et ce qui est justement un petit peu dommage, c'est que nous n'avons aucun rapport, mais pas sous ce
gouvernement. Avec l'État.
Avec l'État.
On vous méprise, évidemment.
On nous ignore.
Ah, c'est le pire. Privé. À pire?
On est ignoré.
Ignoré.
On n'a jamais été invité à un colloque, à donner notre avis. Voilà, on est une entreprise.
L'appel est lancé.
Mais non, mais si demain, Vincent Peillon vous nomme au conseil, supérieur de
discuter.
On ne demande pas d'être nommé, ouais. Mais effectivement, donc, simplement dire, sur tel thème, donnez-nous votre approche, votre sensibilité. On la donnera
volontiers.
Il a entendu, il écoute. Guy,
oui,
c'est l'heure.
L'heure. Est entré dans le studio notre égérie, Agnès L'Église.
Eh ben oui, c'est l'heure du cadeau.
Oui,
jingle.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Philippe Colléon, vous avez été une excellente tête à clic, sincère, acceptant les mauvais points qu'on remue le passé d'Academia. Et donc vous avez mérité un cadeau, c'est celui d'Agnès L'Église qui tous les soirs vient pour notre invité avec un cadeau qui peut être empoisonné. Agnès, c'est à vous.
Alors bonsoir, on ne se connaît pas, mais pourtant j'ai un cadeau pour vous. Et autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas mégoté. C'est même un cadeau que j'aurais adoré qu'on m'offre. Oui, oui, car si j'écris dans Rock et Folk, hein, je peux bien l'avouer, oui. Hein, c'est n'est-ce pas dans le fond que comme tous les critiques, bien sûr, j'aurais voulu moi aussi être une artiste. Et c'est pourquoi sur votre site internet, votre offre Universal Music Academia, que je ne connaissais pas, m'a tout de suite intéressée. Programme alléchant, cours personnalisé et surtout un objectif de fin d'année, le gala concert dans une grande salle parisienne. Tout ça, moi, ça m'a super tenté. Alors, j'ai vu qu'en plus, vous proposez des masterclass, la crème de la crème. Vous avez même des masterclass de DJ. Oui, comme dans les boîtes de nuit. Le rêve, donc, des nuls en instruments. Alors, j'ai regardé la vidéo de l'événement posté sur votre page Facebook. Et en fait, c'est un tantinet plus modeste que ce que je pensais, vu qu'il y a en tout et pour tout deux participants, dont un de 8 ans et demi qui sait déjà faire DJ. Et que ça se résume donc à passer du David Guetta encore plus fort que d'habitude, mais à la main. Alors bon, du coup, je me suis dit, allez, tant pis, je fonce m'inscrire sur mon, sur votre, pardon, cours de préparation au tremplin musical pour me préparer à ce fameux gala concert dans une grande salle parisienne. Mais hélas, je n'ai rien trouvé sur Internet, rien, pas un article. Alors ça fait 2 ans que votre, cette division de votre compagnie existe, hein. Pas une photo, la seule vidéo mal éclairée de ce concert montrant un teenager dépressif jouant dans une cave sombre m'a laissé penser qu'au rythme où vont la chose,
elle est insupportable.
Je serai peut-être avant vous à l'Olympia. Alors je vous en offre une photo.
Mais alors vraiment, quelle vipère.
Merci, l'église.
Offre une photo de l'Olympia, je dis pour nos auditeurs.
Je regrette.
Répondez. Vous acceptez la photo? Vous acceptez le cadeau ou pas?
Ah oui, vous pouvez refuser le cadeau, vous pouvez l'encadrer.
Le cadeau. Je viens juste à vous signaler qu'il y a 2 ans, nous avons réalisé un CD musical.
Absolument, les mots, autour des mots.
Voilà. Des mots, nous avons mis 12 grands poèmes du bac, enfin de première en musique avec des artistes comme Jennifer, Claire Kem, Arthur H, etc. Donc effectivement, notre oui, monde musical n'est pas
le grand concert au bar Le Sunshine ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, Sunshine, pardon.
C'est là où on est encore effectivement très modeste.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre une option musique dans l'offre de service Acadomia?
Plusieurs choses. Un, parce que c'est une matière. D'accord. Il y a aussi un bac musique. Et deuxièmement, il y a forcément une corrélation entre le monde musical et les études. Je vous donne un exemple. Un enfant petit qui joue du piano aura en moyenne 3 points de plus en mathématiques. Donc, la musique aide et dans la confiance et dans l'organisation mentale. Des enfants.
Vous proposez d'ailleurs des stages révision et musique, d'ailleurs révision et plusieurs versions, donc je suppose que c'est pour les attirer les gamins qui du coup vont chanter et travailler en même temps.
Oui, et puis c'est sympa, si vous êtes tout seul, vous faites de la guitare, on crée des petits groupes comme ça avec des enfants qui se rencontrent. Voilà, c'est pas notre cœur business.
C'est pas votre cœur de cible.
Non, c'est pas cœur de cible, c'est une activité que on propose, voilà, aussi si vous voulez vous remettre à la guitare ou au piano, vous pouvez avoir un prof qui vient chez vous. Et puis si vous voulez jouer avec d'autres personnes, on vous fait rencontrer d'autres personnes. Ça reste effectivement modeste.
Ah, vous savez, Agnès, elle a été chercher le truc qu'il fallait trouver. Elle est comme ça. Il y a d'autres directions dans lesquelles vous pouvez aller aussi, on va dire, moins directement liées à votre cœur de cible chez vous.
En termes de diversification, effectivement, on a parlé des services à la personne, comme la maison. Je pense qu'il y a tout le monde sur la partie éducation, il y a tout le monde de l'école. Donc nous avons dans le groupe ouvert notre première école, qui s'appelle France Math à Nice.
France Math, c'est une école physique.
École, seconde, première, terminale. Nous avons eu des résultats.
École privée donc.
École privée, voilà. On a tout un département qui s'appelle Spésup pour tout le monde du supérieur. Donc vous pouvez faire des prépas, voilà. Donc il y a tout ce monde du supérieur. Donc il y a effectivement un champ du pratiquement de la maternelle jusqu'au monde supérieur. On essaye de répondre aux besoins.
Et j'ai lu dans une des interviews que vous avez données que, par exemple, même quand vous débarquez chez votre toubib, vous avez une idée d'entreprise à monter. Alors, c'est quoi la prochaine? Après Shiva, les services à la personne, après Acadomia, c'est quoi la prochaine grande idée qui est la vôtre? Dans quel secteur, vers quelle direction vous seriez prêt à aller?
D'abord, j'adore ce secteur et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Alors, je vais donner une idée parce qu'on l'a un petit peu testé. Je trouve ça très intéressant. On a organisé pour la première fois la fête du bac.
Ça, c'est une drôle, d'idée.
Dans dix villes de France, qui est au mois de, dès que les résultats avaient été connus au mois de juillet. Donc, c'était de réunir tous nos élèves de terminale qui ont eu le bac et de faire rencontrer les enseignants, les familles. On a fait une grande fête.
Et ceux qui l'ont pas eu.
Eh ben, ils peuvent quand même boire un coup pour ce qu'on fait.
Ils n'avaient pas à sortir.
Non. Mais voilà, c'est un moment, je trouve qu'on devrait faire la fête, après 14 années d'études, et ça devrait être fait aussi par l'éducation nationale.
On a toujours fait la fête, mais heureusement, sans les profs. Excusez-moi, c'est un peu un cauchemar, votre truc, les parents et les profs, mais
c'est génial. Ils sont venus, ils adorent.
Et plus sérieusement, je parlais à l'entrepreneur dans d'autres secteurs. Je suis sûr que vous vous fourmillez d'idées.
Non, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur le e-education.
Vous avez lancé les visioconférences déjà, l'enseignement à distance.
On commence. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Internet...
Vous n'êtes pas un peu en retard même là-dessus?
Je pense que parfois, il ne faut pas être trop en avance. Vous savez, c'est comme les pays qui s'informatisent. Souvent, ceux qui sont partis en retard sont plus modernes que les premiers. Je pense que ça va révolutionner, non pas seulement, c'est pas un tableau numérique ou le contenu, ça va, on va repenser complètement le rôle et la vision de l'enseignement, le rôle de l'enseignant dans une classe. Donc, on va arriver sur des parcours beaucoup plus individualisés et ça va, aujourd'hui, vous venez faire un stage chez Academia, par exemple, vous avez des petits boîtiers de vote. Toutes les 7 minutes, on pose une question aux élèves. Ils vont voter sur la bonne réponse. Ça les garde éveillés. Voilà. Donc il y a beaucoup de. Je pense que les nouvelles technologies doivent rentrer dans l'éducation.
Tout à l'heure, quand on a démarré l'émission, on vous demande. Vous avez dit il y a un problème de confiance dans ce pays.
Ouais.
Et vous disiez on fabrique des enfants qui n'ont pas confiance.
Oui.
On est en train de fabriquer des enfants qui n'en ont pas confiance. On sentait qu'il y avait une dimension presque psychologique dans votre façon d'aborder le problème. C'est quelque chose qui vous touche.
C'est clé de voir tous ces enfants, on va dire moyens, lire leur bulletin de notes.
On sentait que c'était un peu tripal. Que c'était un peu tripal et qu'il y avait le petit Philippe.
Il y a de la souffrance.
Le petit Philippe Colléon de 8 ans et demi en culotte courte qui sortait dans le studio.
Je sors ce matin, j'étais voir nos stages.
Ouais.
Effectivement, lundi devrait être une super journée. La rentrée scolaire devrait être une fête. Tout le monde, les enfants, ils ont plutôt la boule au ventre. Les profs ont la boule au ventre.
Beaucoup les profs, hein.
C'est
en Allemagne, non, que la rentrée est une fête. La rentrée, je crois,
à
la grande école, c'est une fête.
D'accord. Donc, à un moment, on a la chance, malgré tout, dans ce pays, d'avoir de l'éducation gratuite, ouverte à tous. C'est-à-dire, à un moment, effectivement, l'image qui est renvoyée bien souvent par l'institution sur l'élève est très négative. Il y a 5 ou 10% de bons élèves. Les autres sont en difficulté scolaire.
Dernière petite chose, on est à la veille de la rentrée, c'est tout bête, on est tous parents, il y a plein de parents qui nous écoutent, 2-3 conseils comme ça pour finir tranquillement pour leur dire comment ça peut mieux se passer.
Cette semaine est clé, c'est-à-dire que bien préparer le premier trimestre est clé. C'est-à-dire qu'un enfant qui réussit bien son premier trimestre réussira son année. Donc on a aussi une approche en France d'attendre souvent les dégâts, les mauvaises notes, pour trouver des solutions. Donc bien préparer la rentrée. J'ai envie de dire cette semaine-là, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, déjà le mettre cette semaine dans le rythme scolaire. C'est-à-dire qu'on voit des gamins arriver...
L'heure de coucher. L'heure de réveil.
Le mettre dans un bon rythme. Et puis, renvoyer une image positive de son enfant. C'est clé. C'est-à-dire qu'à un moment, un enfant, s'il a 6, on lui dit qu'il est nul. Il est cohérent. Il revient avec un 6, il dit, j'ai 6, je suis nul, où est le problème? D'accord? Donc, à un moment, par exemple, nous, un enfant en difficulté, on va dire, quelle est la matière où t'es le plus à l'aise? Et on va travailler avec lui, là où il a 12, pour l'amener à 15. Parce que justement, lui montrer qu'il peut réussir, lui montrer qu'il est bon.
Philippe Colléon, patron d'Academia, une dernière question très rapidement. La notation de prof dont vous vous souvenez dans votre bulletin scolaire qui vous a le plus blessé, c'était quoi?
Est enfin devenu nul.
Bon, il est enfin devenu patron.
C'est vrai.
Oh, c'est bien.
Il a l'air à l'aise complètement dans ses baskets maintenant. Bon, je pense que vous allez réussir à votre entrée, Philippe Colléon, patron d'Academia. Merci d'avoir été avec nous. Des clics et des claques, c'est terminé. On se retrouve demain à 20h avec un autre patron. C'est celui de votre site internet quasi préféré de commerce Systemd. Ce sera le patron du Bon Coin, figurez-vous.
Ça va être génial.
Je sais que vous adorez. Voilà, je vous dis bonsoir à tous et je dis bonsoir à Frédéric Taddeï.
Bonsoir David. Ce soir, il va être question de la guerre et du scandale. Mais qu'est-ce qu'on appelle la guerre de nos jours et qu'est-ce qu'on appelle le scandale? J'ai quatre écrivains. Loïc Merle, qui vient de publier L'Esprit de l'Ivresse. Jean Hatzfeld, avec Robert Mitchum, ne revient pas. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. Et Flore Vasseur, En bande organisée. Des romans, là aussi, très très intéressants sur notre époque.